La Green Solution de la semaine, en collaboration avec Construction 21, le média du bâtiment et du développement durable.
Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Green Solution, une émission coproduite par Radio Immo et Construction 21. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric Simonin. Bonjour.
Bonjour.
PDG de Trianon Résidence et DG de Carré de l'Habitat Rhône-Alpes et Occitanie au sein du groupe Vivialis. Alors, avant toute chose, on va parler évidemment du programme Heure Déco et spécifiquement de l'opération de Saint-Louis. Vous allez nous présenter ce projet. Avant, pouvez-vous nous présenter brièvement Trianon Résidence dont vous êtes le PDG?
Oui, Trianon Résidence, c'est un peu l'enfant terrible du groupe Vivialis. Le groupe Vivialis, qui existe depuis maintenant 23 ans, a en son sein plusieurs marques. Une marque de maison individuelle, maison Stéphane Berger, maison Oxygène, Carré de l'Habitat, qui fait du logement intermédiaire, et puis du résidentiel avec Trianon Résidence, et puis aussi un aménageur foncier qui s'appelle Terre et Développement.
D'accord.
Pour vous donner une idée un peu de volume, c'est 380 personnes, on construit 1850 logements par an, et on travaille sur la région Alsace-Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes, et Occitanie.
D'accord. Donc c'est toute la partie est quasiment de la France.
Oui, on est parti de l'Alsace, on était chercher un peu le soleil.
Oui, c'est bien. Alors, bon, on va parler justement de ce programme, de ce projet immobilier Heure Déco. Donc vous l'avez réalisé à Saint-Louis, dans le Haut-Rhin. Pouvez-vous nous parler, donc nous présenter ce programme immobilier?
C'est un programme qui a quelques spécificités. En termes de volumétrie, il fait 5 ans de logement. Donc situé à Saint-Louis, c'est une commune qui est juste à côté de la frontière baloise, qui est une des villes les plus riche au monde, donc avec un pouvoir d'achat de frontalier qui est relativement important, et puis on voulait donner
avec la Suisse.
Frontalier avec la Suisse, bien sûr. Et puis on voulait donner une connotation un peu différente à cette résidence, et comme je dis toujours, pour avoir une résidence utile à son territoire. Et puis on a eu quelques spécificités dont on va peut-être parler tout de suite.
Alors justement, donc premier programme en Alsace et un des premiers en France à être doté d'une façade aux propriétés dépolluantes, auto-nettoyantes et bactéricides. C'est incroyable, capable d'absorber l'équivalent de rejet en CO2 de 20 voitures à l'année. Mmh. Mais alors comment ça fonctionne ?
C'est relativement simple. Déjà l'idée génératrice de ce projet, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur la qualité de l'air intérieur. Il était assez logique qu'on se préoccupe aussi de la qualité de l'air extérieur.
Bien sûr.
On est un acteur assez innovant dans notre domaine, et puis il était important d'avoir une innovation qui soit en lien avec l'implantation d'un bâtiment. On est sur un axe qui est relativement passant, donc qui génère de la pollution liée aux véhicules. Donc dans la réflexion, on s'est dit, tiens, comment, dans la thématique de bâtiment utile à son territoire, comment on peut raisonner par rapport à ça et utiliser nos innovations. Et donc on a trouvé un industriel qui avait inventé, puisque nous on innove mais on invente rien.
Donc vous faites un benchmark en fait.
Exactement. Et puis et qui travaillait sur des petites briquettes qui étaient apposées sur des façades et qui avaient en son sein un composé chimique qui permettait, avec la photocatalyse, donc l'utilisation de la lumière, d'oxyder les particules de carbone. Ce qui fait que toute la partie les particules de carbone de CO2 des véhicules qui
donc
se mettent sur la façade.
Sont emprisonnées par les.
Alors c'est pas emprisonné, elles sont juste détruites, donc
d'accord.
Ça transforme ce composé organique carbone en composé neutre. Tout
d'accord.
Simplement. Donc, et on a décidé de l'implémenter sur cette façade. Alors, pourquoi 20 véhicules? C'est tout simplement parce que la façade a 400 mètres carrés d'utilisation de cette façade qui agit par photocatalyse. Donc, 400 mètres carrés équivaut à 20 véhicules, à la pollution de 20 véhicules par an. Alors, quand je dis 20 véhicules par an, ça peut être un peu surprenant parce qu'on se dit, mais 20 véhicules par an à l'échelle de cette ville, c'est pas grand chose. Mais comme disait Pierre Rabhi, je fais ma part.
Moi, je trouve ça incroyable. Vous imaginez si tous les immeubles étaient dotés de cette façade? Mais ce serait génial, en fait.
Alors, ce serait bien. Alors, dans les faits, impossible à implémenter. Mais si on fait une projection, oui, c'est 30% de la population qui serait réduite si l'ensemble des immeubles étaient avec cette façade. Ce qui est techniquement impossible.
Pourquoi c'est impossible?
Mais parce que vous avez des bâtiments qui sont déjà existants et qu'il y a un coût certain.
Oui.
Mais l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de dire que par l'innovation, on peut aussi avoir un impact. Puisque quand on construit, on pollue. Dire qu'on fait de l'écologie dans la construction, c'est une vaste hérésie. Ouais. Mais c'est comment limiter l'impact que l'on a sur notre environnement en construisant. Et ça, c'est un des éléments.
Et c'est très cher, ce genre de façade ?
Très cher, c'est toujours relatif.
Il
faut regarder ce que ça coûte et ce que ça rapporte. Donc, pour vous donner une idée, une façade pour les 400 mètres carrés, c'est à peu près 100 000 euros, j'arrondis.
D'accord.
Mais l'idée, c'est de se dire si on a des convictions, à la rigueur, oui, 100 000 euros, c'est 100 000 euros que le promoteur gagnera en moins dans son bilan, parce que c'est pas ça forcément qui fait vendre plus. Mm-hmm. On pourra en parler si vous le désirez après, sur la manière dont l'usager final a perçu cette innovation. Mais quand vous avez des convictions, vous vous dites, ça existe, j'ai pas envie de passer à côté, je veux l'implémenter pour voir ce que ça
Bien
fait.
Sûr.
Et l'idée, c'est pas de faire juste un coup. On a fait une deuxième résidence au sud de Strasbourg où on a réimplémenté cette innovation.
En tout cas, personnellement, je trouve ça génial. Alors, quels sont les avantages d'avoir choisi un chauffage par réseau de chaleur urbain? Et alors, comment il est alimenté?
La commune a mis en place un réseau de chaleur urbain. Alors, il était un peu loin de la résidence, mais on a trouvé des accords financiers pour pouvoir amener ce chauffage urbain jusque dans la résidence, parce que si déjà il y a un chauffage urbain, qu'on l'utilise. Donc, le chauffage urbain utilise tout ce qui est déchets liés à l'agriculture, des rafles de maïs, etc., etc. Donc, on utilise des déchets et on chauffe. Donc, c'est plutôt vertueux aussi.
Ouais.
Ça a un coût relativement intéressant. Parce que finalement, c'est ça l'objectif, c'est d'utiliser des déchets. Donc, écologiquement, c'est mieux. On n'utilise pas gaz ou des produits fossiles. Premier avantage. Et puis le deuxième avantage, c'est une question de coût. Pour vous donner une idée, pour un 3 pièces, c'est l'équivalent de 378 euros de chauffage et eau chaude sanitaire avec les abonnements par an. Soit, j'arrondis 1 euro par jour de chauffage et eau chaude sanitaire. Donc aujourd'hui, on entend parler du pouvoir d'achat, on entend parler d'augmentation des coûts de l'énergie.
Du gaz russe aussi.
Du gaz russe et tout type d'énergie fossile. Là, aujourd'hui, vous chauffez un 3 pièces avec 1 euro par jour. Donc, pareil, en termes de conviction, oui, ça nous a coûté un peu plus cher de tirer les réseaux, mais en l'occurrence, il fallait qu'on le fasse, quoi. Donc, on l'a fait.
Et du coup, cet hiver aussi, les habitants pourront se chauffer sans penser aux conséquences de la guerre en Ukraine. C'est important aussi d'en parler.
Pour d'autres raisons peut-être, mais en tout cas pas pour le chauffage.
Ouais. D'accord. Alors, vous avez créé un label, le label Bâtiment Sain, pour évaluer la qualité de l'air des logements. Donc on en parlait tout à l'heure, la qualité d'air intérieur. Il a d'ailleurs été attribué à la résidence, donc Art Deco. Comment fonctionne ce label? Comment a-t-il été créé? Sur quels critères?
Alors, je vais faire un petit peu d'histoire, mais l'idée a été lancée avant la mise en application de l'ART 2012. À l'époque, beaucoup de constructeurs, promoteurs, architectes qui ne voulaient pas voir cette norme arriver disaient qu'on va créer des bâtiments thermos. Ça m'a ouvert un peu l'esprit en me disant, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire bâtiment thermos et quel est l'impact que ça peut avoir sur l'usager final? Parce que finalement, l'ART 2012, on est à la RE2020 là, mais l'ART 2012 à l'époque était assez vertueux, c'est bon pour le porte-monnaie et c'est bon pour la planète. Mais la question, comme on a des bâtiments qui étaient très étanches, la question que je me suis posée, c'est mais quid de la qualité de l'air intérieur? Moi, je suis pas médecin, donc je me suis associé entre guillemets dans la réflexion au CHU de Strasbourg avec un éminent allergologue et je lui ai dit mais docteur, expliquez-moi comment ça se passe les problématiques liées à la qualité de l'air intérieur. En fait, il y a deux problématiques, elle est essentiellement liée aux allergènes et aux composés organiques volatiles. Donc ça génère des maladies qui sont liées au formaldéhyde, au benzène, c'est des substances que l'on a dans l'école, dans les peintures, etc., qui à terme sont rejetés dans l'environnement et qui peuvent générer des problématiques asthmatiques ou de cancer. Donc, fort de ce constat, j'ai demandé à ce qu'on fasse un état global de l'utilisation des matériaux qu'on utilise dans les résidences en laboratoire par le CHU de Strasbourg. Et il s'avère que dans nos constructions, 50% des matériaux utilisés étaient bons, voire très bons, 30% moyens et 20% pas bons. Toujours des allergènes et des composés organiques volatiles. On a été voir les industriels, on a dit, est-ce que vous avez des produits qui sont sans allergènes, sans composés organiques volatiles? La réponse est oui. Pourquoi vous ne les proposez pas? Réponse des industriels, parce que toute la profession dit que c'est trop cher. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on a des convictions, on les porte. J'ai dit, mais trouvons des solutions pour pouvoir implémenter nos résidences et utiliser ces matériaux. On l'a fait, on l'a labellisé, on a fait un label qui s'appelle Label Bâtiment Sain. C'est un label interne. Quand j'en ai parlé, on nous a dit, oui, mais un label interne, vous êtes jugé parti. J'ai dit, qu'à cela ne tienne. On l'a étalonné auprès de l'ADEME, avec leur label Écrin, qui était à l'époque manager. On s'est rendu compte que notre label, il tenait la route par rapport au label de l'ADEME. Donc, c'est un label qui tient la route. Aujourd'hui, effectivement, cette résidence, elle a été labellisée bâtiment sain, comme toutes les résidences que l'on fait.
D'accord.
Quand on fait quelque chose, c'est pas faire un coup marketing, c'est pas faire un coup one shot, c'est parce que c'est porté par des convictions. On est conscient que finalement les logements que l'on construit sont 5 fois plus pollués à l'intérieur qu'à l'extérieur, logements neufs, donc on doit faire quelque chose. Et on agit via ce label.
C'est très intéressant ce label, ouais. En termes de mobilité pour les résidents, est-ce que vous avez mis en place certaines choses?
Oui, Le logement est toujours intimement lié avec les mobilités, parce que quand les gens achètent un logement, ils se posent des questions de comment je vais à mon lieu de travail, comment j'emmène les enfants à l'école, périscolaire, extrascolaire, etc. etc.
Bah, c'est un des critères de choix pour l'achat clairement. D'un appartement ou d'une maison. Hein.
Clairement. Mais clairement, on l'a vu après le Covid. Après le Covid, il y a eu ruée vers les campagnes. Maintenant que l'essence est à 2 euros, les gens se disent, mais finalement, est-ce ça vaut le coup d'habiter à 15, 20 ou 30 kilomètres de chez moi? Je ne parle pas de la région parisienne, je parle plutôt des villes de province. Oui, j'ai un peu de verdure, mais deux, j'ai un coût de l'énergie qui est plus important. Donc il y a un gros dilemme qui est mis en... dont les gens une question que se posent les gens, par exemple, gros dilemme. Et donc on s'est dit, tiens, si on agrégeait des mobilités, si on essayait de trouver des solutions par rapport à nos résidences. Donc, dans certaines résidences, on a mis des vélos électriques, et dans une résidence comme celle de Saint-Louis, on a mis des véhicules en autopartage pour les résidents. Ça a plusieurs avantages. La deuxième voiture qui reste au parking 98% du temps, bah finalement, là, les gens, on peut leur dire, libérez-vous de cette voiture. Et pour des menus trajets, utilisez les voitures qui sont dans votre résidence. C'est une utilisation qui est relativement simple, sans abonnement, qui ne coûte pas de charges supplémentaires. On a trouvé un bon système avec Renault par rapport à ça. Renault, le constructeur, hein, pas le chanteur. on a trouvé un système relativement innovant par rapport à ça. Et ça a un vrai succès auprès de nos résidents.
Oui, c'était ma prochaine question. Ça fonctionne bien, du coup.
Ben oui, parce que les gens y trouvent un intérêt. Alors, il y a l'intérêt du quotidien, mais après, je prends mon exemple, moi qui ai des filles relativement grandes. À partir du moment où elles passent leur permis, elles veulent une voiture. Ben finalement, une voiture pour quelqu'un qui vient de passer le permis, on prend une voiture qui a un peu d'âge, qui peut être cabossée, avec une assurance qui coûte cher pour être utilisée de temps en temps. Là, en l'occurrence, ben, quelqu'un qui a 19 ans qui vient de passer son permis, c'est pour faire 2-3 sorties en hiver, aller voir les copains ou se balader à droite d'eau. Il y a une voiture qui est à disposition. Elle n'utilise que autant kilomètres passés et un point, c'est tout.
Oui, donc c'est très, très avantageux au final pour
l'utilisateur. Je pense, oui. En tout cas, c'est un vrai succès.
Ouais.
Et alors, ce que l'on a fait sur une autre résidence aussi dans le Haut-Rhin, c'est qu'en fait, on a pris en charge le coût des mobilités pendant un an pour tous les gens qui achètent un logement dans cette résidence. Et finalement, on l'a fait pour dire aux gens, testez les transports en commun, parce que en fait c'est toujours pareil. Si vous voulez faire entre guillemets de l'écologie, mais je le mets vraiment entre parenthèses, entre guillemets, il faut que les gens commencent à tester les produits. Quelqu'un qui n'a jamais testé les transports en commun, il a peut-être un regard un a priori plutôt négatif sur les transports en commun.
Ça donne pas envie, ça peut ne pas donner envie. Une fois qu'on le fait, on se dit bon bah c'est pas si compliqué.
Exactement.
Que ça.
Exactement. Donc on a dit, on leur met le pied à l'étrier, on dit testez, on paye pour vous et puis après vous verrez. Et puis s'il y a des habitudes qui changent, tant mieux.
Et ça fait combien de temps du coup que vous avez lancé cette initiative?
3 ans.
Et donc ça a bien marché cette année de test?
Mais oui, parce que ça fait sens. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait quelque chose, on le fait pas pour se faire plaisir, on le fait parce que ça fait sens pour l'usager final. Tout simplement.
D'accord. Et alors, quelles sont les prochaines étapes pour le programme et cette opération?
Alors sur cette opération qui s'appelle Art Déco à Saint-Louis, elle est livrée depuis quelques mois, elle vit bien.
Tout se passe comme prévu.
Donc ce qui nous permet de se dire tiens, on va continuer et puis parfois améliorer des services. Donc c'est quelque chose que l'on va refaire. On n'est jamais sur un one shot.
C'est réplicable, hein.
Ben, c'est l'objectif. Il faut que ce soit réplicable. Sinon, ça n'a aucun sens. C'est comme mettre des espaces communs. J'élargis par rapport à votre question, mais ça nous arrivait de mettre des buanderies communes, des salles de sport communes, ce qui se fait beaucoup en Allemagne, aux États-Unis, etc. Le prétexte, c'est de créer du lien social. C'est-à-dire qu'en fait, comme je dis souvent, quand les gens dans les résidences, souvent on connaît à peine son voisin, et puis les résidences vivent mal parce que tout d'un coup, irrespect, incivilité, la musique de l'autre, le local poubelle qui est dégueulasse, et ensuite on a vraiment de la défiance par rapport à son voisin. C'est parce que les gens ne se connaissent pas. La fête des voisins, ça suffit pas à agrémenter du lien social.
C'est une fois par an.
C'est une fois par an et ça ne suffit pas. Bien, mais ça suffit pas. Le lien social, il se fait pas tout seul. C'est que les gens vont pas spontanément aller sonner chez le voisin en disant bonjour, je suis votre nouveau voisin, allons boire un verre ensemble. Donc, on s'est dit, c'est à nous de lancer le sujet. Et donc, par des espaces communs, buanderies communes, salles de sport communes, des bibliothèques communes, vous agrégez le lien social. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un prétexte à ce que les gens se croisent. Quand on se croise, on se parle. Quand on se parle, on se connaît. Quand on se connaît, on se respecte.
Plus d'occasions de se croiser, c'est sûr.
Exactement. Et finalement, pendant le Covid, j'ai appelé les syndics de copro qui gèrent nos résidences qui étaient livrées depuis quelques temps. Je dis, mais comment elles ont vécu? Et en fait, elles ont vachement bien vécu. Parce que c'était les seuls espaces où les gens avaient du lien social pendant les 2 mois de confinement.
Ouais.
Et ça a créé une espèce de communauté. Je parle pas de communautarisme, mais ça a créé une communauté dans la résidence. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Une anecdote, si j'ai encore une minute. dans cette salle de sport commune. À votre avis, un senior, à quelle heure il va dans cette salle de sport, à votre avis?
Le matin ou le soir?
Le matin, perdu. Il y va plutôt le soir.
J'en étais sûr.
Il y va plutôt le soir. Et en fait, anecdote, une dame d'un certain âge va le soir dans cette résidence. Une dame beaucoup plus jeune, célibataire avec un enfant, va dans cette salle de sport parce que c'est difficile quand vous avez un enfant et que vous êtes femme, vous avez déjà un métier le matin, la journée, vous avez un métier le soir.
C'est très compliqué.
Voilà, donc en plus aller à la salle de sport, c'est compliqué.
En plus célibataire, ouais, c'est
aussi dur de trouver un chéri en plus avec toutes ces contraintes. Et là on s'est dit finalement cette dame, on va mettre un petit espace pour les enfants. Peut-être que si un jour il y a une femme célibataire, elle prend son enfant sous le bras, elle le met là, elle va faire sa demi-heure ou ses trois quarts d'heure de vélo, le gosse joue, etc. Et alors le soir, se rencontre cette dame âgée avec cette jeune femme, etc. Qu'est-ce qui se passe? On parle du petit, et au bout d'une demi-heure, la femme âgée dit si de temps en temps vous voulez que je vous le garde, je vous le garde. Et la jeune dit si vous voulez que je fasse 2-3 courses pour vous de temps en temps, je vous les fais. Et c'est ça du lien social. Et c'est comme ça qu'une résidence, elle vit bien. Et c'est comme ça que les gens, ils apprennent à vivre les uns avec les autres et pas en défiance les uns vis-à-vis des autres.
Vous avez pensé à tout, mettre le coin enfant dans la salle de sport. C'est génial d'avoir pensé à ça. Parce que moi, honnêtement, j'y aurais jamais pensé, par exemple. Mais c'est tout bête, mais ça, comme vous le dites, ça crée du lien social.
Oui. En fait, je vous remercie pour la notion de génial, mais il y a rien d'ingénieux. Il suffit juste de se poser, de se dire, à la place de l'usager final, je parle pas du client.
Se mettre à la place
l'usager,
des gens, en
c'est le locataire aussi, de l'investisseur. C'est de se dire, je vis là-dedans, je me projette comme si j'ai 20 ans, 25 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, et comment j'ai envie de vivre dans cette résidence? Comment je veux bien vivre avec mes voisins? Et c'est ça qui manquait dans la résidence collective, qu'on retrouve moins dans l'intermédiaire avec les carrés de l'habitat, où là, il y a déjà une communauté, ou la maison de ville, où on a envie d'être individuel. Mais dans le collectif, il fallait retrouver ça. Et dans tout ce que l'on imagine, dans tout ce qu'on implémente, on se positionne toujours vers l'usager final, et on remonte en disant comment nous, on aimerait que les gens vivent, comment on aimerait qu'ils soient heureux dans leur logement.
Mais pour rebondir juste, pour finir sur ce que vous disiez tout à l'heure, ce besoin de lien social depuis les confinements, c'est très vrai, et la preuve en est, le co-living a explosé en 2021. Pourquoi? Parce que les gens, on s'est rendu compte que beaucoup de gens vivaient seuls, et que les gens qui vivent seuls dans leur appartement, même en copropriété, ont besoin d'interaction et sont à la recherche de ça maintenant, parce qu'ils ne veulent pas revivre ce qu'ils ont vécu pendant les confinements. Et ils veulent justement échanger, pouvoir faire du sport avec les voisins, dire quelques mots. Il y a des cuisines communes, il y a des buanderies. Enfin voilà, comme vous le dites, c'est très très important.
Oui, le Covid a été un effet d'accélérateur de ce qui était déjà en train de
mûrir,
d'émerger. On sentait il y avait une vraie tendance. On a cette chance là d'être assez ouvert à ce qui va se passer là. Il y a encore de vraies évolutions sociétales. Je pense beaucoup au logement des seniors. Moi, je suis un fervent adversaire des EHPAD. Pour moi, ça n'est pas une solution. Si vous regardez, selon certaines civilisations asiatiques, orientales, très latines, on met pas ces anciens tout seuls en train de mourir tout seuls. On les garde à la maison. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, j'espère que je choquerai pas en disant ça parce qu'il y a aucun respect, mais les anciens, ils veulent mourir chez eux. Et quand vous les mettez dans un EHPAD, c'est un accélérateur de mourir. Même si dans les EHPAD, il y a des gens extraordinaires.
Du moment, ça donne pas envie.
Oui, même s'il y a un personnel extraordinaire qui fait tout pour que ça se passe bien. Mais les gens, ils veulent mourir chez eux. Donc, notre rôle, en tant que concepteur de logement, etc., c'est de penser ça pour eux. C'est de se dire comment on peut imaginer les logements où les gens pourront y vivre le plus longtemps possible, être médicalisés le plus longtemps possible. Et s'ils veulent mourir chez eux, ils mourront chez eux, avec leurs proches à côté, et dans cette communauté où on les soutiendra jusqu'au dernier moment.
Où on est chez soi et bien chez soi.
Bien chez soi.
Eh bien, merci beaucoup, Cédric Simonin, d'être venu sur le plateau. Merci infiniment de nous avoir présenté ce beau projet Heure Déco de Saint-Louis.
La Green Solution de la semaine, en collaboration avec Construction 21, le média du bâtiment et du développement durable.